Bonjour mes frères et sœurs, eh bien nous arrivons maintenant à notre époque. Vous savez que depuis quelques vendredis, je vous parle au sujet de l'histoire de l'Église annoncée et prophétisée donc dans la Bible. Et bon, voilà, j'ai été obligé de raccourcir, je n'ai pas ici le temps de vous raconter toute l'histoire de l'Église, en fait des deux Églises, de la vraie et de la fausse, parce que vous avez compris que très rapidement dans l'histoire de l'Église, il y a des personnes mauvaises qui se sont introduites et qui ont perverti, n'est-ce pas, le message de Jésus-Christ. Et je vais vous parler donc de religion dont vous avez entendu parler forcément, puisque c'est une étude sur l'histoire de l'Église. Mais c'est très bon de savoir dans quelle Église nous sommes, pourquoi nous y sommes, est-ce qu'il faut y rester, est-ce que... Bon, voilà. Alors, je continue donc mon exposé au sujet de l'histoire de l'Église. En 1612, il y a un homme du nom de John Smith, un Hollandais, un prêtre anglican, il lance l'Église baptiste parce qu'il a la révélation que le baptême des luthériens et autres protestants n'est pas correct. Et le baptême, il comprend qu'il doit être administré à des adultes et par immersion. Donc, vous voyez, Dieu révèle petit à petit la vérité et le résultat est toujours le même. Il y a ceux qui croient et ceux qui croient pas. Et c'est pourquoi les baptistes ont dû créer leur propre religion, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens chrétiens, très fiers de leur église, qui ne croyaient pas ce pasteur qui arrivait et puis qui racontait cette histoire au sujet du baptême par immersion, du baptême pour les adultes. Alors les baptistes ont lancé donc leur religion, ils ont aussi lancé l'esprit missionnaire, parce qu'avant, bon, on restait entre soi, puis là, voilà. Maintenant, les baptistes ont commencé à aller évangéliser, et aujourd'hui, ils sont environ 120 millions sur Terre. John Smith a écrit un livre au sujet de sa foi, et il l'a envoyé au roi d'Angleterre, le roi Jacques Ier. Le roi s'est fâché tout rouge, c'est un anglican, hein, pas un catholique. Et il a fait emprisonner John Smith en 1612, et ce pauvre John Smith est mort en prison en 1616, 4 ans plus tard. Donc vous voyez comment les persécutés deviennent les persécuteurs. Actuellement, il y a environ 50 000 baptistes en France. Comme toujours, c'est en France que ça marche le moins. C'est-à-dire dans toutes les, pour tout ce qui est religieux, le français, il est, enfin voilà. Voilà. Mais toutes les dénominations chrétiennes vous le diront, hein. C'est cette espèce d'esprit râleur du français qui veut toujours avoir raison, qui est plus intelligent que le reste du monde et qui, voilà. Donc, je veux surtout vous démontrer que, Dieu ne se presse pas. Il donne la révélation petit à petit. Et chaque fois, ben, ça crée des divisions. Voilà pourquoi nous avons tant de religions dans le christianisme. Mais c'est la même chose chez les catholiques. Il y a aussi pas mal de divisions. Maintenant, il nous faut personnellement être à l'écoute de ce que Dieu dit pour savoir quelle est l'Église qui est au plus près de la réalité de l'Église primitive où il y avait toute la révélation. Vous vous rappelez? C'était l'apôtre Paul qui était l'ange de l'Église. Si vous n'avez pas écouté mes premières prédications, allez écouter ces premières prédications. Je crois que c'est 3 ou 4 vendredis en arrière. Vous allez voir l'ange de l'Église, c'est l'envoyé à l'Église. Et cet envoyé à l'Église a eu un impact, n'est-ce pas, jusqu'en l'an 170 à peu près. Puis après ça, après la mort des apôtres, ça a commencé à apostasier grave. En fait, sous le troisième sceau, que nous allons, c'était l'intelligence humaine qui a fait faire un grand bond à la vraie Église. On va prier. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu viennes au secours de mon intelligence et de l'intelligence des frères et sœurs qui écoutent ce message, pour qu'ils comprennent ce résumé que je suis en train de faire au sujet de ton Église et des prophéties qui ont été données au sujet de ce qui allait arriver. Merci Jésus de nous aider. Donc, comme je vous disais, sous le troisième sceau, on l'a vu la dernière fois, c'est surtout l'intelligence humaine qui a fait faire un grand bond en avant à la vraie Église, avec des hommes comme Luther, Martin Luther, le réformateur allemand, Calvin, Jean Hus, Colomba, Wesley, John Smith, et bien d'autres qui ont cherché à croire et à vivre les Écritures. Mais tout cela, c'était que des réformes. Or, dans Actes 3.21, il nous est dit que Jésus reviendrait au temps du rétablissement de toutes choses. Pas simplement une réforme des choses, mais un rétablissement de toutes choses. Alors ne croyez pas que je sois en train de faire de la pub pour telle ou telle religion. En fait, moi, j'en ai pas. Je ne veux pas de religion. Donc, je suis complètement... Vraiment là, je suis suisse, je suis neutre. Je ne veux pas de religion. Je vous parle de l'histoire de l'Église, voilà. Je suis bien obligé de vous dire ce qui s'est passé. Ensuite, c'est à vous de voir. Alors, on va lire Apocalypse 3, 14-22. C'est donc ce que Jésus écrit au dernier âge de l'Église, c'est-à-dire nous croyons, nous autres chrétiens, que Jésus revient bientôt pour enlever son épouse de la terre. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin et nous sommes dans l'âge de Laodicée. C'est ce que nous comprenons quand on lit la Bible avec le secours du Saint-Esprit et puis voilà, quand on veut bien comprendre. Donc, Apocalypse 3, 14, 22. Alors, c'est Jésus qui parle et qui dit « Écris à l'ange de Laodicée ». Vous vous rappelez, le mot « ange », c'est le mot « envoyé ». « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » Donc, on comprend que c'est Jésus. Et Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Il dit ça à l'Église, donc à notre Église, à l'Église de notre époque. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid » ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Waouh. En effet, tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, l'or purifié par le feu, c'est la parole de Dieu, hein, cette fois passée au creuset. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, c'est-à-dire la sanctification, la pureté. À l'heure actuelle, l'Église est ridiculisée par tout le monde à cause de tous les scandales et à cause de toutes les doctrines complètement idiotes qui circulent surtout sur le net maintenant, hein, depuis quelques années. Donc, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède ou un collyre à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Faut savoir qu'à Laodicée, c'était la spécialité de la ville. Ils faisaient un collyre pour les yeux, n'est-ce pas? Donc, Jésus leur dit, ben, achète donc un collyre pour voir, mais pour voir spirituellement. Parce que tu crois que tu vois, mais en fait, tu es aveugle et puis tu t'en rends même pas compte. Alors, Jésus continue en disant, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Donc si vous êtes corrigé, ben, c'est bien, c'est parce que Dieu vous aime. Si vous êtes exempt de correction, c'est que vous êtes illégitime. Voilà. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, communion fraternelle. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ou entende ou comprenne ce que l'Esprit dit aux Églises. Voilà. Ça concerne donc les derniers temps de l'Église sur terre. Alors ça correspond au quatrième sceau. Rappelez qu'on a ouvert des sceaux. Et à chaque fois, on a vu un être vivant, qui est un être vivant qui vient du trône de Dieu, puis un cheval. Enfin, là, on va lire ce qui se trouve sous le quatrième sceau. C'est rempli de symboles et on va voir ça. Apocalypse 6, 4 à 8. Apocalypse 6, 4 à 8. Alors, 6, 4. Non, c'est pas ça. C'est 7 à 8, pardon. C'est 7 à 8. Apocalypse 6, 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, rappelez que c'est un livre, c'est un rouleau fermé avec un sceau. Quand on ouvre le sceau, on a la révélation de ce qui est écrit dans le livre. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et Jésus avait déjà parlé de cela, de son vivant quand il était sur terre, dans le fameux passage de Matthieu chapitre 24 qui semble tellement embrouillé et qui est tellement interprété par toutes sortes de gens. Matthieu 24, versets 9 à 14. Voilà ce que Jésus dit au sujet de notre époque. Alors on vous livrera la persécution et on vous fera mourir. Je vous rappelle qu'il parle à des Juifs, et c'est vraiment bien ce qui est arrivé tout au long des âges. Les Juifs ont été persécutés, mais pendant notre époque, ça a été pire que jamais. Alors on vous livrera la persécution, on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà. Ah, ça c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe, cet antisémitisme terrible. Beaucoup trébucheront lorsque, beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Ça, on n'a jamais vu autant de gaillards et de bonnes femmes qui viennent et puis qui disent « Le Seigneur m'a parlé, j'ai eu un songe, c'était fort. » À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je crois que c'est typique de notre époque. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pas la fin du monde, mais la fin de l'Église sur la terre. Alors, ces trois textes, donc de Apocalypse 3, Apocalypse 6 et Matthieu 24, ces trois textes nous parlent de la même période. Alors, tout d'abord, ce que dit Jésus, quand on ouvre le sceau, il dit « Je connais tes œuvres ». Je sais que tu es ni froid, ni bouillant, mais que tu es tiède. Et puis il ajoute, si tu changes pas, je vais te vomir de ma bouche. Est-ce que Jésus trouve l'Église en bon état? Non. D'ailleurs, quand il était sur terre, il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Ah, des gens qui disent, j'ai la foi. Oui, mais la foi, elle est accompagnée d'œuvres. Alors, quelles sont tes œuvres? Elles sont ni froides, ni bouillantes, c'est tiédasse. Et vous, comment vous trouvez l'état de l'Église, de votre Église? Vous êtes satisfait de l'état de votre Église? Vous trouvez que c'est génial? Vous trouvez que c'est super biblique? Ouais, notre Église, c'est la meilleure. Tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça. Nous n'avons pas, nous dans notre communauté, on n'a pas cette prétention, on est toujours à la recherche de savoir qu'est-ce que Dieu a encore à dire, qu'est-ce que Dieu veut que nous croyons plus des choses qui sont dans les Écritures ou ce qu'il est en train de révéler. Nous sommes en train de chercher, dans toutes les religions, ils sont bloqués dans leur credo, si vous en sortez, vous êtes excommuniés. Quelle est la raison de la tiédeur, alors, de l'Église actuelle? Jésus le dit, dans Apocalypse 3, 17-19, il dit « Tu vis dans l'illusion, en quelque sorte. Tu dis « Je suis riche, j'ai besoin de rien. » Mes frères et sœurs, heureusement que Luther n'a pas pensé comme ça, parce que sinon nous serions tous encore en train de nous prosterner devant des statues dans les églises catholiques. Heureusement que lui l'a vu clair et qu'il a réagi. Mais dans notre âge, non, on pense qu'on est bien, qu'on a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Par contre, alors, quelle église dit « Je n'ai besoin de rien, je suis riche » ? Aucune. Les baptistes disent pas ça, les pentecôtistes disent pas ça, personne dit ça. Mais écoutez-les bien. Qu'est-ce qu'ils disent en réalité quand vous lisez leurs trucs ou que vous les écoutez ? « En dehors de nous, pas de salut. » Nous prêchons le plein évangile. Nous sommes les seuls à avoir le vrai baptême. Si vous n'êtes pas baptisé comme nous on dit, vous êtes perdus. Etc., etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Prenons le pentecôtisme, puisque nous sommes, sinon pentecôtistes, au moins pentecôtisants. Moi, je suis né spirituellement dans le pentecôtisme, que j'ai quitté par la suite. C'est toute une histoire. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans le pentecôtisme? Eh bien, à l'école biblique des Assemblées de Dieu de France, donc des pentecôtistes les plus importants de France, on m'a enseigné, et je pense qu'ils enseignent toujours, que Dieu a rétabli le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels en 1906 aux États-Unis, que cela a commencé avec les pasteurs Charles Fox Parham et William Joseph Seymour. On nous raconte que nous sommes plus de 280 millions de membres de par le monde et que nous avons le plein évangile. Ça, c'est typique, hein. C'est nous avons le plein évangile, c'est-à-dire que Dieu n'a plus rien à nous apprendre, nous savons tout, nous sommes riches, spirituellement nous avons tout, nous avons le plein évangile, il y a rien d'autre que ce que nous avons, il n'y a rien d'autre que ce que nous savons, et si une doctrine ne vient pas de chez nous, elle est forcément fausse. Voilà. Puisque nous sommes baptisés, remplis, immergés dans le Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit, et cela depuis 1906. En tout cas, c'est ce qu'on m'a enseigné dans l'école biblique des Assemblées du Dieu de France, c'était en 1970. Ah ben, c'est faux. C'est faux. Alors, je ne sais pas s'ils m'ont menti ou s'ils ignorent. Je pense qu'ils ignorent. En tout cas, en France, ils ignorent parce que la plupart de ces braves pasteurs sont des autodidactes et qui ne lisent pas beaucoup à part leur Bible et puis leur le calendrier de la bonne semence et puis quelques bouquins qui viennent de chez eux. Je sais qu'en disant ça, je vais pas me faire des copains, hein, mais tant pis, je suis pas là pour ça, hein, je suis pas là pour me faire des amis. Je peux pas laisser cacher ce qui s'est produit. Alors, est-ce que vous me permettez de le dire? Si vous me permettez de le dire, on continue, sinon, vous arrêtez. Il n'y a rien de plus simple, vous appuyez sur le bouton stop, et hop, vous m'écoutez plus, puis c'est fini. Maintenant, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, apprenez que, en 1830, il y a un jeune homme qui était troublé, parce que dans sa région, il y avait un réveil religieux. Les pentecôtistes n'existaient pas encore, hein, je vous rappelle, c'était en 1830. Mais toutes les religions envoyaient leurs évangélistes pour prêcher, et ils avaient tous la même Bible, mais ils se contredisaient tous et s'envoyaient tous mutuellement en enfer avec beaucoup d'amour. Tous prétendaient être les représentants de Jésus-Christ et être la véritable Église. Alors, ça prêchait ceci, ça prêchait cela, et l'autre arrivait une semaine après, il prêchait le contraire. Enfin, ce jeune homme il avait 14 ans à peu près, était très troublé, il comprenait pas, et alors ce jeune homme avait peur de se joindre à une Église et de se tromper. Ben oui, quand on réfléchit un peu et qu'on est normal, on se dit, mais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui me dit que mon église est la bonne église et les autres? Alors c'est tous des idiots, c'est tous des antichrists, c'est tous, il n'y a que nous. Alors un soir, il lisait sa Bible et il trouve un verset dans Jacques au chapitre 1 et verset 5. Alors je vais vous trouver ce passage. Jacques 1, 5, où il est dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé et instable dans toute sa conduite. Donc vous avez des gens chrétiens qui prient Dieu pour demander la sagesse, mais qui sont instables dans toute leur conduite et qui reçoivent rien du tout et puis qui continuent leur vie d'instable et de voilà. Et, bon, enfin bon. Mais lui, par contre, il a cru ce verset et il a voulu ajouter une action à cette croyance. Il a dit, bon, bah, puisque c'est ça, ici, il y en a un qui manque de sagesse, c'est bien moi. Et le lendemain, elle est allée prier dans un bosquet, juste derrière chez lui, c'était la campagne. Et là, le Seigneur lui est apparu. Et il lui a dit de ne se joindre à aucune église, car elles étaient toutes plus ou moins dans l'erreur. Mais qu'il attende et qu'il serait bientôt conduit. Bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de ce jeune homme. Par contre, je peux vous dire qu'il a été choisi pour créer une église qui croit comme les luthériens au sujet du salut par la foi, qui croit comme les méthodistes au sujet de la sanctification, qui croit comme les baptistes au sujet du baptême, et que dès 1830-1840, ils manifestent, et encore aujourd'hui, dans cette église, les 9 dons surnaturels qu'on trouve dans la Bible. Ils parlent en langue comme nous, ils ont les 9 dons, ils ont les 5 ministères, et tout cela près de 70 ans avant le pentecôtisme, qui se vante d'avoir reçu tout ça en premier. Alors je peux vous dire que le fondateur de cette église a été sauvagement assassiné par des protestants et des catholiques, il y avait quelques païens avec eux aussi, et qu'aujourd'hui, ils sont le seul peuple de croyants, à part Israël, à avoir un État où vivent 3 102 000 habitants à peu près. Leur État a une superficie de 220 080 km², soit environ la moitié de la France. Et aux environs de 1870, un prophète de cette Église a prophétisé la naissance d'un homme qui ne ferait pas partie de leur église, et la prophétie donnait même le nom de cet homme, William Branham. Je ne l'invente pas, c'est William Branham qui le dit lui-même. Cette prophétie, disait, parce qu'il a eu quelqu'un, un mormon, lui a remis un livre de mormon dans lequel il y avait cette prophétie qui avait été glissée. Cette prophétie disait qu'il fallait le laisser tranquille parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Bon, donc vous avez compris que le fondateur de cette église se nomme Joseph Smith, qui n'a rien à voir avec le Smith des baptistes, hein, c'est un autre Smith. Et leur église a pour nom l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Tout le monde les connaît sous le nom de mormons. Alors vous allez dans une église et vous demandez, vous connaissez les mormons? Alors certains vont dire, oui, ils sont polygames. Bon, ils ont été polygames pendant quelques temps et ils se sont rendus compte que c'était une erreur et ils ont arrêté assez rapidement. Ils vont vous dire, ah, c'est ceux qui vivent toujours avec les charrettes et tout. Non, ça c'est les Amish. Enfin bon, tout le monde critique ces gens. Sans vraiment connaître, sans avoir étudié leur histoire, sans avoir lu leurs bouquins, rien du tout. Non, nous n'avons pas besoin, nous sommes riches, nous avons tout ce qu'il faut, on sait tout. Alors, personnellement, je ne suis ni luthérien, ni méthodiste, ni baptiste, ni mormon, ni pentecôtiste, ni brahmaniste, ni rien du tout. Ok, c'est clair. Tous ont des doctrines qui sont plus ou moins étranges, que je n'accepte pas. Mais tous sont des enfants de Dieu. Enfin, je ne dis pas tous les baptistes, tous les pentecôtistes, tous les mormons sont les enfants de Dieu. Je dis qu'il y a des enfants de Dieu dans toutes ces églises. Parce que, en tout cas, dans leur doctrine, ils reconnaissent tous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que nous ne pouvons être sauvés que par la grâce en Jésus, par la grâce de Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Ça, tous croient ça. Alors, ouvrons les yeux, et puis c'est ça qui fait que nous sommes sauvés ou perdus. Après, Joseph Smith, le fondateur de l'église des saints des derniers jours, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est un peu long à dire, c'est pourquoi on les appelle les mormons, il disait, ça c'est la base, tout le reste c'est des détails. Il était très, waouh. Alors frères et sœurs, ouvrons les yeux. Cessons de croire que nous sommes les meilleurs du monde et faisons preuve d'un peu d'humilité. Les mormons ont connu ce que nous connaissons, nous autres, près de 70 ans avant nous, et je le redis, je ne suis pas mormon. Mais je ne suis pas branhamiste non plus, mais écoutez bien ça. L'homme qui m'a conduit à Jésus se nommait Raphaël Duval. Raphaël Duval est un gitan de la mission évangélique Zigane. Il a reçu son ministère miracle par une prophétie de T.L. Osborne, qui a créé une fondation qui existe dans 70 pays, qui est connue partout, qui est aimée partout, sauf en France, évidemment. Osborne était le fils spirituel de Branham. C'est même lui qui a fait l'enterrement, la cérémonie de l'enterrement de frère Branham, sans pour autant croire toutes les doctrines de Branham. Mais c'était quand même son fils spirituel. C'est spirituellement que je vous parle, c'est pas, je ne vous parle pas de doctrine et de trucs. On a, tout le monde a, ses, a des points de doctrine. Enfin bon. T.L. Osborne est devenu mon ami en 1979. Il m'a ordonné dans le ministère le 7 novembre 1979. Je ne suis pas pour autant osborniste. Par contre, je fais partie d'une lignée. Quelle lignée ? Luther, Wesley le méthodiste, John Smith le baptiste, Joseph Smith le mormon, Charles Fox le pentecôtiste, frère Branham le prophète, Osborne l'indépendant, Raphaël l'assemblée de Dieu et mon seul maître, c'est Jésus-Christ. Le seul nom que je porte, c'est celui de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Vous ne me ferez jamais porter le nom de méthodiste ou baptiste ou pentecôtiste ou mormon ou quoi que ce soit. Je ne porte pas ces noms-là, je porte le seul nom de Jésus parce que c'est lui mon époux. Vous comprenez? Alors tous ces gens, Dieu s'est servi d'eux tout au long de l'histoire, et je les tiens en haute estime. Maintenant, je ne les divinise pas, mais je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être vomi de la bouche de Dieu. Je veux savoir ce que Jésus a à dire aujourd'hui à son Église. Vous voyez, dans Apocalypse 3, 20, il dit 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors à qui Jésus parle-t-il là on l'a vu, écrit à l'église. C'est donc à l'église, c'est à l'église de notre époque que Jésus parle, à la dernière église. Après vous pouvez regarder, il n'y a plus d'église, c'est fini. Après, dans le cinquième sceau, il n'y a plus d'êtres vivants, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus, c'est fini parce que l'Église a été enlevée. Et c'est le règne de l'Antichrist. Mais, pour le moment, nous sommes dans cette période qui est appelée l'âge de la Laodicée. Et Jésus dit, je suis à la porte. Où est-ce qu'il est? Il est à la porte. Et il frappe. Quelqu'un qui est à la porte et qui frappe, c'est quelqu'un qui est en dehors. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est chez lui et qui frappe à la porte pour sortir. Non. Jésus donc a été mis à la porte des églises à cause de tous les scandales, le sectarisme, le manque d'amour, les filouteries, les impuretés. Et il se tient à la porte et il frappe. Il est dehors. Et qu'est-ce qu'il cherche? À entrer dans l'église? Non. Lisons le texte. Apocalypse 3:20, il dit: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que Jésus veut venir vivre chez toi, vivre en communauté avec toi, vivre avec toi. Par exemple, quand je prends mes repas, puisqu'il parle de repas, il dit je souperai avec toi, je mangerai avec toi. Quand je prends mes repas tous les jours avec mes frères et sœurs, avec Philippe, Dominique, ma femme, Stéphane, tous les autres frères et sœurs de la communauté, je ne vais pas dire tous les noms, je mange avec Jésus, je mange avec Jésus qui vit dans leur cœur. Je partage la communion avec eux, nous prenons la Sainte Cène tous les soirs ensemble. Vous voyez? Je veux aller chez toi. Voilà ce que Jésus te dit, je veux aller chez toi, pas dans un local que tu appelles pompeusement l'église, un endroit sacré. Oui, il faut parler tout doucement parce que on ne sait pas pourquoi il faut parler tout doucement. Je veux aller dans ta maison et je veux vivre ce que les premiers disciples vivaient à Jérusalem. C'est-à-dire Jésus veut rétablir son église telle qu'elle était quand elle a commencé à Jérusalem avec l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le pain, le vin, dans les prières. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas d'indigents parmi eux parce qu'ils mettaient tout ensemble. Il n'y avait pas. C'était la véritable vie de la véritable Église et Jésus veut que ça recommence de nouveau juste avant l'enlèvement. Alors je ne dis pas que nous avons atteint la perfection. nous autres ici à la communauté, mais en tout cas, on essaye, on n'a pas peur d'être excommunié, on a été excommunié, donc on s'en fiche, on n'a plus rien à perdre. Alors, il y a toujours des frères et des sœurs dans toutes sortes de dénominations qui reconnaissent que nous sommes des chrétiens, ils nous invitent même à prêcher, nous prions pour les malades et ils sont tout contents de voir des guérisons au milieu d'eux. Mais ce que je veux dire, c'est mon message. Il faut être prêt pour pouvoir être enlevé. Et être prêt, c'est pas simplement écouter à gauche, à droite des gens qui vous disent la date du retour de Jésus ou des âneries comme ça, mais c'est de vivre la parole de Dieu. Nous vivrons, c'est Jésus qui le dit, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons vivre des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, là, je vous parle des Mormons. Alors, l'objection, c'est oui, ils ont deux Bibles. Non, ils n'ont pas deux Bibles. Ils ont un bouquin autre que la Bible. Mais vous aussi, vous avez plein de bouquins autres que la Bible, non? Dans votre intérieur, là, vous avez des tas de bouquins. Des bouquins de Billy Graham, des bouquins de je ne sais pas qui, de Rebecca Brown, ou de je ne sais pas qui. Vous avez tous vos bouquins. Bon, les Branhamistes, ils ont leurs brochures, tout le monde a ses bouquins. Le livre de Mormon, c'est quoi? Le livre de Mormon, c'est un autre témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pas un autre évangile, c'est un témoignage au sujet de la divinité de Jésus-Christ et du salut qu'il est venu nous offrir gratuitement. Si vous vous donnez la peine de vous procurer un livre de Mormon, et si vous vous donnez la peine de le lire, vous n'apprendrez que de bonnes choses. Et puis cela vous aidera à entrer dans le rétablissement de toutes choses, parce qu'ils ont reçu beaucoup, beaucoup plus que dans les autres églises. Ils ont rétabli, par exemple, le baptême pour les morts, qui était pratiqué dans l'église primitive jusqu'au 4e siècle, qui a été interdit au 4e siècle par l'église catholique naissante, et qui a été remplacé par le purgatoire, la prière pour les morts, et tout ce fourbi diabolique. Les premiers chrétiens, l'apôtre Paul dit pas que c'est mal de se faire baptiser pour les morts. Il dit simplement, s'il n'y a pas de résurrection, alors ça sert à quoi de se faire baptiser pour eux? Voilà. Bon. Et ça, vous l'avez pas compris parce qu'on vous l'enseigne pas dans votre église. Pourtant, votre église dit, nous avons le plein évangile. Vous voyez? Bon. Puis il y a beaucoup d'autres choses aussi encore que vous pourrez trouver dans ce bouquin-là. Ce bouquin était, je vais pas vous faire un cours sur le livre de Mormon. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. Vous avez qu'à vous en procurer, hein, et puis vous le lisez, puis vous verrez bien. L'important, c'est que vous soyez au courant afin de savoir ce que vous avez à faire. Ce que vous avez à faire, la Bible le dit, que la grande prostituée, pardon les catholiques, hein, tant pis si je vous vexe, mais je vais vous le dire, la grande prostituée, l'Église catholique, qui est ivre du sang des saints parce qu'elle en a brûlé et massacré, elle a même massacré quelques-uns de mes ancêtres à Grenoble, au temps de la Réforme. Voilà, donc cette grande prostituée, elle s'est prostituée, ça veut dire qu'elle a quitté son époux, c'est-à-dire quitté Jésus, elle est devenue une idolâtre, mais elle a eu des fils et des filles. Eh bien, elle porte, cette grande prostituée, sur son front, des noms de blasphème. Qu'est-ce que c'est ces noms de blasphème? Ben, je vais vous dire ce que c'est ces noms de blasphème. Eh bien, c'est protestant luthérien, c'est baptiste, pentecôtiste, c'est toutes ces istes, toutes ces religions. Les gens ne disent pas, vous dites, vous êtes chrétien? Oui, je suis pentecôtiste. Vous êtes chrétien? Oui, je suis baptiste. Vous êtes chrétien? Oui, je suis catholique. Vous aimez porter le nom de votre religion alors que vous ne devriez porter que le nom de votre époux, Jésus. Et voilà. Alors, chacun porte ces noms-là. Et puis un jour, et ça arrive très bientôt, il va y avoir une organisation mondiale d'église, et si vous ne portez pas le nom de cette église, eh bien, vous serez persécuté, vous ne pourrez plus acheter ni vendre, ni rien du tout, vous serez reconnu pour... Tout le monde va y passer, c'est la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? C'est pas la puce machin, là. C'est de porter des noms abominables, ces noms de blasphème, ces noms abominables. C'est appartenir à l'Église mondiale. C'est pourquoi Jésus dit « Sortez du milieu d'elle afin de ne pas participer à ses impuretés, de ne pas être tenu pour coupable et complice de toutes ses mauvaises œuvres. » Voilà, ben, je vous l'ai dit. Maintenant, je suis sûr que, oh là là, je vais perdre de l'audience, là. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Je gagne pas d'argent pour ça. Ça m'est égal si vous m'aimez plus. Je dois vous dire la vérité. Eh bien, là, voilà, la vérité, elle est écrite, elle est biblique, elle était prophétisée. L'histoire de l'Église, elle était annoncée dans Apocalypse 2 et 3. Maintenant, nous avons la révélation de ce que disent ces fameux sceaux et la révélation de la chronologie de Matthieu chapitre 24. Je ne dis pas que je connais tout, mais une chose est certaine, je suis ouvert. Si jamais un jour, j'ai dit à mes frères et sœurs, si un jour je trouve dans la Bible qu'il faut se coincer les doigts dans une porte pour être sauvé, ben j'irai me coincer les doigts dans une porte. Il faut être honnête. Quand on comprend quelque chose qui est écrit, on doit le faire. Si on le fait pas, on est quoi? Un trouillard, un tiède, quelqu'un qui finalement sera vomi de la bouche de Dieu. Moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je suis pas parfait. Je suis comme vous. Mais j'essaye de tout mon cœur de faire au plus près ce qui est écrit. Parce que j'aime Jésus. Et il y a des choses qui ont été scellées jusqu'à la fin. Maintenant, elles sont ouvertes. On peut les comprendre. Je vous le dis. Faites-en ce que vous voulez, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Et puis, peut-être d'ici quelques mois, je continuerai avec le sceau numéro 5, 6, 7. Je vous parlerai peut-être des coupes qui sont versées sur la terre, des 7 trompettes. Je vous parlerai peut-être des 144 000. Je vous parlerai de toutes ces choses-là. Mais pour le moment, c'est ça qui est important. Parce que nous sommes à la veille du retour de Jésus. Pourquoi est-ce que vous iriez savoir ce qui va se passer pendant la grande tribulation si vous n'allez pas y passer par la grande tribulation si vous êtes fidèle? Mais si vous n'êtes pas fidèle, oui, vous y passerez. Alors oui, je crois quand même que je vais enseigner qu'est-ce qui va se passer pendant la grande tribulation afin que vous sachiez aussi que c'est grave, que c'est pas un jeu, c'est pas un truc secondaire. C'est vraiment important pour notre époque. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être conséquent avec ce que tu as dit, au travers de tes serviteurs fidèles. Merci, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. D'ici quelques temps, dans le dictionnaire Révélation Bible, je vais mettre des informations au sujet de toutes ces choses. Je suis en train d'écrire beaucoup. Et voilà. Vous aurez tout ça, vous pourrez l'étudier encore beaucoup plus clairement. Réécouter depuis le début ces, je crois, 4 ou 5 prédications sur l'Apocalypse des vendredis que j'ai fait dernièrement. Voilà. Donc, au revoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.